Radio Kapi.
À la présentation du journal, Gisèle Cage.
Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Voici le grand titre qui font l'actualité ce soir. Grand Lac, un pas décisif vers le retour volontaire de réfugiés. RDC, Rwanda, HCR signe un accord historique à Addis Abeba pour une solution durable. Ituri, détresse à Kingonze, à Bunia. Des centaines de femmes, d'enfants et de personnes âgées vivent à ciel ouvert après la destruction de leurs abris par les pluies. La situation sanitaire se dégrade et les appel à la paix se multiplie. Kasaï Central, une voix s'élève contre le retour des filles enceintes à l'école. Jean Malice Lungala, coordonnateur de la Ligue pour le droit des enfants et élèves, dénonce une circulaire qu'il juge dangereuse pour la moralité scolaire. Il est l'invité du journal. Ce journal s'ouvre sur une avancée majeure dans le processus de rapatriement de réfugiés dans la région de Grand Lac. La République démocratique du Congo, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Rwanda ont trouvé un terrain d'entente sur le principe du retour volontaire de réfugiés. Les trois parties ont signé un communiqué conjoint ce jeudi 24 juillet à Addis Abeba, en Éthiopie, à l'issue de deux jours d'intenses discussions entre experts. Un pas important vers une solution durable au déplacement forcé dans la région. Plus de précision avec vous, Pauline Mousalia.
La République démocratique du Congo et le Rwanda s'engagent à rechercher des solutions durables en faveur des réfugiés en tenant compte des récentes avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali d'une part, d'autre part la déclaration de principe signée le 19 juillet dernier à Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ces engagements visent à créer un climat propice à la reprise effective et sécurisée du retour volontaire des réfugiés, précise un communiqué du ministère congolais de l'Intérieur publié sur X. Le communiqué conjoint recommande l'accélération du rapatriement volontaire de 600 réfugiés rwandais actuellement hébergés au centre de transit de Goma. Le document réaffirme également la nécessité d'une vérification appropriée de l'identité et de la nationalité des réfugiés souhaitant retourner volontairement dans leur pays en coordination avec le HCR. Le communiqué conjoint a été signé par Jacquemain Chabani, ministre congolais de l'Intérieur. Le Rwanda, pour sa part, était représenté par son ambassadeur en Éthiopie, le général Charles Karamba.
Ce 24 juillet, la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a représenté le président Félix Antoine Tshisekedi à la 1291e session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée à la situation en Libye. Selon une publication du ministère congolais des Affaires étrangères sur son compte X, la chef de la diplomatie congolaise a réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC en faveur de la souveraineté de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de la Libye. Elle a salué la signature le 14 février 2025 de la charte de réconciliation nationale libyenne qu'elle considère comme une étape cruciale vers une sortie durable de crise. Thérèse Kayikwamba Wagner a également appelé au respect strict de l'embargo sur les armes, à la cessation immédiate de tout appui militaire étranger non autorisé, au renforcement du régime de sanctions en vigueur. Enfin, elle a encouragé toutes les parties libyennes à s'engager dans un dialogue inclusif en vue de parvenir à un accord sur un calendrier électoral crédible. Situation préoccupante au Nord Kivu. Dans les territoires de Rutshuru, l'accès aux champs devient de plus en plus difficile pour les habitants, notamment dans les zones proches du parc national des Virunga. En cause, une opération de traque lancée depuis plusieurs semaines par les éléments de l'AFC M23 contre les présumés rebelles FDLR. Le groupement le plus touché sont ceux des Binza dans la chefferie de Bouicha, ainsi que Bambo et Tongo dans la chefferie de Bouito. Selon plusieurs notables locaux, cette situation compromet sérieusement les activités agricoles, principale source de survie pour les populations. Et avec la saison de récolte perturbée, la crainte d'une crise alimentaire se fait de plus en plus sentir. Les habitants lancent un cri d'alarme. Si rien n'est fait, la famine pourrait s'installer. Plus de détails avec vous, Alain Rong.
Jusque tard dans la soirée hier mercredi, des tirs d'armes lourdes et légères étaient entendus dans les villages de Kakono, Kaunga et Kazaro. C'est vers l'ouest du groupement Bukoma, chefferie de Bouisha, dans la lisière du parc national des Virunga. Toutes nos sources parlent de la poursuite par l'AFC M23 de la traque contre des présumés rebelles hutu-rwandais FDLR. Du coup, tout accès à cette zone est interdit jusqu'aujourd'hui aux civils agriculteurs et la situation des cultivateurs qui s'y trouvaient n'est pas connue. Nos sources affirme que des opérations similaires sont en cours depuis quelques semaines dans toute la partie ouest de l'axe Katwiguru-Nyamilima, en groupement Binza dans la chefferie de Bouisha, toujours à la lisière du parc. Près d'une centaine de cultivateurs qui forçaient l'accès à la zone ou qui y campaient pour leurs activités champêtres sont portés disparus depuis la semaine dernière. Le dernier cas en date est celui d'une vingtaine de cultivateurs qui campaient dans la zone dénommée Congo Paysana, ouest de Nyamilima, dont on ignore ce qu'ils sont devenus depuis lundi, indiquent nos sources. Celle-ci précise qu'au niveau des groupements Tongo et Bambo, chefferie de Buito, la situation est similaire. Selon un notable de la place, la famine s'empare à présent des locaux et des populations déplacées.
Coopération militaire, la République démocratique du Congo et la Turquie ont décidé de renforcer leurs liens dans le domaine de la défense. L'annonce a été faite ce mardi en marge de la 17e session du Salon international de l'industrie de défense IDEF 2025 qui se tient à Istanbul. C'est à l'issue d'un échange entre le vice-premier ministre congolais en charge de la défense nationale Guy Kabombo et son homologue turc que cet engagement a été scellé. Une coopération qui pourrait ouvrir la voie à des nouveaux partenariats stratégiques entre les deux pays. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Accueilli chaleureusement à Istanbul, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a exprimé sa gratitude pour l'hospitalité de son hôte et salué l'opportunité de prendre part à cet événement stratégique. À travers leur entretien, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté commune de consolider les relations dans le secteur de la défense en droite ligne avec la vision des présidents Félix Tshisekedi et Recep Erdogan. Lors de cette rencontre, Guy Kabombo Mwadiavita a rappelé l'importance de la mise en œuvre effective des trois instrument juridique clé signé à Kinshasa le 20 février 2022. Il s'agit de l'accord cadre de coopération militaire, de l'accord sur l'industrie de défense et celui d'aide financière. Le ministre congolais a également souligné l'urgence d'une coopération opérationnelle structurée et orientée vers notamment la formation spécialisée des phares d'essai, la modernisation des capacités militaires, l'appui technologique et le développement progressif d'une industrie des défenses nationales. La rencontre entre ces deux personnalités jette les bases des projets conjoints à forte valeur ajoutée.
Direction l'Ituri où la situation humanitaire reste critique sur les sites de déplacés des Kingonze à Bunia. Des centaines d'enfants, des femmes et des personnes âgées vivent actuellement sans abri, exposés aux intempéries. En cause, les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers jours sur la ville, détruisant les abris de fortune de ces familles déjà fragilisées par les conflits armés. Résultat, de nombreux cas des maladies liées au froid et à l'humidité sont signalé sans réelle prise en charge médicale. Face à cette détresse, un seul appel, le retour de la paix dans leur village d'origine pour enfin tourner la page à l'exil et de la précarité. Reportage signé Martial Kizabiamongo.
Ces chants est parmi les cris de détresse de ces enfants des sites de Kigonze, dont l'âge varie entre 4 à 8 ans. Beaucoup parmi eux ne connaissent le chemin de l'école. À chaque fois qu'il y a la pluie, c'est un calvaire pour des milliers de personnes dans ces sites. Les pluies détruisent plusieurs de leurs abris et les vents violents emportent des bâches en état d'investiture qui couvrent leurs petites maisonnettes. Cette situation affecte également la vie sanitaire de plusieurs déplacés. Les plus touchés des cas de maladies hydriques sont des femmes enceintes, celles des troisième âge et des enfants. Ces déplacés expriment leur détresse.
Quand il y a la pluie, dormir c'est un problème. Aidez-nous avec des bâches et des couvertures pour des femmes enceintes et les enfants. Nous souffrons beaucoup.
Tout en condamnant ceux qui veulent embraser l'Ituri par des violences armées, les présidents des sages de ces sites, Didone Matesso, comme tous les déplacés, appellent le gouvernement à rétablir la sécurité dans leurs villages respectifs en Djougou pour permettre leur retour.
Ceux qui veulent continuer avec la guerre doivent cesser, qu'ils laissent les problèmes de sécurité à l'État pour nous permettre de retourner dans nos villages respectifs.
Cette situation est similaire dans d'autres sites de personnes déplacées à Bunia et à la périphérie. Bunia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Après l'Ituri, direction province du Lualaba, tension ce mercredi à la carrière minière des Chabara, située près du village Kawama, à une quarantaine de kilomètres de Kolwezi. Plus de 10 000 créseurs artisanaux se sont soulevés pour exprimer leur colère. À l'origine de ce mouvement, une information qui circule sur leur possible déguerpissement du site actuellement géré par la coopérative minière artisanale Komakat. Une annonce qui a mis le feu aux poudres. Les créseurs déjà frustrés ont décidé de manifester leur mécontentement. Rappelons qu'en mai dernier, ces mêmes sites avaient été la cible d'actes de vandalisme. Une situation qui témoigne du climat des tensions persistant autour de l'exploitation artisanale dans la région. Le point avec Paul Mounanga.
Les créseurs artisanaux de la carrière Chabara ont reçu un message selon lequel ils devraient être déguerpis de ce site par la coopérative Komakat, indiquent des sources locales. Cette nouvelle les a frustrés, ainsi ils ont décidé de suspendre leurs activités et ont manifesté sur les lieux. Ils expriment leur colère et promettent de se défendre en cas de tentative de déguerpissement. Que les autorités se penchent sur ces dossiers. Sinon, nous allons nous défendre et il y aura des dégâts. Nous sommes dans un même pays et tous des Congolais. Les autorités devraient nous protéger. Contacté, le DGA de la coopérative minière Komakat fait savoir qu'il n'est pas question du déguerpissement des créseurs. Michel Bizimungu annonce qu'un groupe de personnes veut soulever les 19 000 créseurs du site minier artisanal de Chabara en voulant créer un comité de créseurs. Ce qui est illégal, souligne-t-il.
Ce sont des gens qui voudraient avoir un comité de créseurs. Du point de vue de la loi, cette histoire est déjà révolue à partir du code minier de 2002. À ce jour, c'est les coopératives ou les sociétés coopératives qui gèrent les sites miniers artisanaux.
Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Ambiance timide me reprise quand même ce jeudi au marché central de Kinshasa. Les magasins tenus par les commerçants chinois réouvrent progressivement leurs portes. Cette réouverture intervient après un moratoire de 6 jours accordé par l'intersyndicale, le temps pour les employeurs de revoir à la hausse les salaires de leurs agents. Pour rappel, lundi dernier, les travailleurs congolais de ces enseignes avaient lancé une grève pour dénoncer le non-respect du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel. Professionnels garantis. Nos reporters Lucky Nzao et Abraham Kabuka se sont rendus sur place ce jeudi. Voici leur constat.
C'est depuis mardi que quelques magasins ont commencé à ouvrir. D'autres ont emboîté les pas mercredi et ce jeudi, mais pas tous. Pour ce qui est du respect de leurs revendications, ajustement du SMIG, certains agents sur place disent ne pas être satisfaits jusque-là. C'est le cas de celui que nous avons rencontré.
Cette décision devrait être appliquée de la même manière et dans toutes les maisons de commerce. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce nouveau SMIG n'est pas respecté.
D'autres, par contre, commencent déjà à voir un changement. Cet employé congolais nous parle de l'arrangement fait avec leur employeur chinois.
Nous avons eu des discussions. Maintenant, nous attendons la suite à la fin du mois. Ils disent avoir ajouté $50 dans un premier temps.
Toutefois, à ce jour, les magasins où aucune entente n'a encore été trouvée entre employeurs et agents restent fermés.
Dans le Haut-Katanga, les nouvelles structures de prix pétroliers seront bientôt rendues publiques par le ministre de l'Économie nationale via un arrêté officiel. Ces tarifs ont été élaborés et validés mardi dernier à Lubumbashi lors d'une réunion qui a réuni autour de la même table les membres du comité de suivi de prix et les bons pétroliers de la FEC Haut-Katanga. Ces nouvelles structures concernent les zones sud et est du pays et s'appliquent également au gaz de pétrole liquéfié pour la zone d'approvisionnement ouest. D'autres précisions à suivre avec vous, Jean Gandou.
D'après le ministère de l'Économie nationale, la validation de cette structure des prix concerne les produits pétroliers terrestres pour les zones de consommation domestique et pour les sociétés minières, ainsi que celles de l'aviation nationale et internationale pour les zones d'approvisionnement sud et est. À en croire Albert Kasongo Mukonzo, directeur de cabinet au ministère de l'Économie, la nouvelle structure contribuera à faire baisser le prix pour les consommateurs finaux tout en renforçant la lutte contre la fraude minière. Célestin Tuité, secrétaire général à l'économie, a indiqué pour sa part.
Le comité de suivi des prix des produits pétroliers a été chargé également d'assurer la vulgarisation de ces modalités de taxation auprès des sociétés minières de la province du Haut-Katanga ainsi que de la province du Lualaba.
La démarche est saluée aussi par le président de la commission des hydrocarbures de la FEC au Katanga, Joseph Tuité Maloba.
Nous sommes contents de remercier le gouvernement d'avoir dépêché tous les membres du comité de suivi des prix à Lubumbashi afin d'élaborer et valider les structures des prix des produits pétroliers qui cette fois-ci ont connu une nouveauté parce que nous avons une structure des prix des miniers et une structure des prix des non-miniers. Partenaires du gouvernement, nous ne pouvons que respecter la structure des prix qui sera publiée.
Reste à savoir l'incidence que cela aura sur les paniers de la ménagère.
Une première victoire pour la justice climatique, c'est ainsi que Maître Olivier Ndole, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et le droit humain, ACDH, qualifie la décision rendue ce mercredi par la Cour internationale de justice dans un avis consultatif historique. La Cour internationale de justice a confirmé que les États ont une obligation juridique de lutter contre le changement climatique et de protéger leur population contre ses effets. Une avancée majeure saluée par la société civile, notamment par la coalition Plateforme africaine sur le climat, à l'origine d'un plaidoyer déposé récemment devant cette juridiction de l'ONU. Pour Maître Ndole, cette décision marque un tournant dans la reconnaissance des responsabilités des États face à l'urgence climatique. On l'écoute.
C'est une victoire et aussi c'est une décision charnière entre le niveau universel et le niveau régional et pourquoi pas aussi le niveau national. Donc ça va avoir un effet sur le plan d'une redéfinition et aussi une certaine révision des législations internes, des conventions et des coopérations au niveau régional. Quand vous prenez par exemple notre merveilleux parc national de Virunga, par rapport par exemple aux questions d'exploitation des fossiles qui donnent beaucoup plus de dégâts en termes de dégradation des terres des communautés locales, cet avis consultatif va devoir donner d'orientations législatives qui vont aussi consacrer à une certaine manière la protection de notre biodiversité, une conservation durable, mais aussi une conservation pro-communauté, mais aussi à la question du droit à une justice climatique au niveau continental et des décisions au niveau national.
Actualité internationale.
Des violents échanges de tirs ont éclaté ce jeudi à la frontière entre les armées cambodgiennes et thaïlandaises, relançant une crise frontalière vieille de plusieurs décennies. Selon les autorités de deux pays, les affrontements ont eu lieu près des anciens temples situés entre la province thaïlandaise de Surin et celle d'Odar Michen au nord-ouest du Cambodge. L'armée thaïlandaise accuse les forces cambodgiennes d'avoir ouvert le feu vers 8h20 environ, 200 mètres de leur base, près du temple Presat Tamwin Tom. En représailles, des frappes ont été menées causant la mort d'au moins 9 civils et faisant 14 blessés selon un communiqué de l'armée thaïlandaise. De son côté, le Cambodge dénonce une agression militaire non provoquée et condamne fermement ce qu'il qualifie d'action inconsciente et hostile de la Thaïlande. Le premier ministre cambodgien a appelé à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU face à ce qu'il décrit comme une escalade sans précédent depuis près de 15 ans. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Cette nouvelle flambée de violence ravive un différend frontalier hérité de l'époque coloniale autour des tracés de la frontière commune.
L'invité.
Notre invité séjour sur le coordonnateur provincial de la Ligue pour la zone Afrique pour le droit des enfants et élèves, Lizadel, au Kassai central. Il réagit à la récente décision de la ministre de l'Éducation nationale autorisant les maintiens à l'école des filles enceintes, une mesure que sa structure rejette fermement. Pour Jean Malice Lungala, cette circulaire risque d'encourager l'immoralité en milieu scolaire et d'aggraver les violences sexuelles. Il s'exprime au micro de François Kadima.
Monsieur Jean Malice Lungala, bonjour.
Bonjour.
Alors, la ministre de l'Éducation nationale a pris une décision. Cette décision encourage que dans les écoles, on ne mette pas fin aux études de filles qui tombent enceintes. Pourquoi la Lizadel s'oppose à cette décision de la ministre d'Éducation nationale?
Nous nous opposons à cette circulaire puisque cette circulaire n'a pas tenu compte de certains paramètres. Et nous estimons, nous, au niveau de la Lizadel, que cette circulaire encourage l'immoralité dans les milieux scolaires, étant donné que la circulaire ne dit même pas le sort alors des auteurs de ces grossesses. Une fille enceinte va pouvoir rester à l'école, mais Que dira-t-on de l'auteur de cette grossesse, notamment son camarade de l'école? Est-ce que le camarade de l'école sera-t-il chassé ou sera-t-il maintenu? Et la circulaire ne le dit pas. Et pour nous estimons que cette circulaire n'a pas tenu compte de certaines mesures d'accompagnement, étant donné que c'est une immoralité qui est encouragée psychologiquement, puisque une fille enceinte, quand on va pouvoir rester à l'école, c'est une manière pour nous d'encourager d'autres filles aussi, puisqu'il n'y a plus de sanctions, et au niveau de l'école, et au niveau de la famille. Et psychologiquement, celles qui ne sont pas enceintes vont pouvoir chercher aussi à devenir enceintes, et ça c'est notre point de vue au niveau de la LISADEL. Et nous estimons que cette circulaire encourage l'immoralité. Imaginez-vous que dans cette école, qui est par exemple dans cette salle de classe, qui est par exemple 10 filles enceintes et toutes les filles en train de vomir chacune dans son coin, et nous pensons que ça va indisposer d'autres filles, ça va même indisposer l'enseignant. Nous avions peut-être dit ici que si ça dépendait de nous, si la ministre en charge de l'éducation nous avait nous interrogé, on pouvait peut-être donner notre point de vue. C'est lequel? On devait d'abord sursoir aux études.
Même sursoir, une fille qui à l'école tombe enceinte, pas par son vouloir, elle peut être violée. Alors, vous ne pensez pas que vouloir aussi arrêter ses études, c'est un danger pour son avenir?
Je crois que quand j'utilisais les termes surséance, c'est-à-dire qu'on sursoit ses études, ça ne veut pas dire qu'on la chasse définitivement de l'école. C'est-à-dire qu'on lui donne le temps, pendant qu'elle est enceinte, d'aller suivre ses examens, comme on appelle ses peines, d'aller voir son médecin, puisque la grossesse, si vous posez la question au psychologue, la grossesse amène aussi certaines indispositions, certaines fatigues. Et pendant cette période, la fille devra être plus près de son médecin pour l'accompagner jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement, la fille maintenant retourne à l'école pour suivre ses études. La LISADEL a toujours encouragé la promotion des études de la jeune fille, puisque l'éducation, nous estimons que c'est un droit fondamental pour l'enfant, qu'il soit fille, qu'il soit garçon. Donc nous ne pouvons pas nous souscrire au freinage de la jeune fille. Nous ne soutenons pas le freinage. Ce que nous refusons, c'est le fait de garder une fille enceinte à l'école pendant qu'elle est enceinte. Pour nous, c'est une manière d'encourager notre fille à se compromettre. C'est pourquoi nous fournissons des recommandations, ça c'est notre point de vue au niveau de la LISADEL, que pendant qu'elle est enceinte, on peut ne faire que sursoir ses études. Le temps qu'elle accouche, après l'accouchement, elle va regagner son école, elle va regagner ses études. Je veux prendre un petit exemple au hasard. La fille qui va accoucher pendant les examens, ou soit au début des examens, c'est-à-dire qu'elle viendra faire l'examen après, ou bien on va attendre qu'elle d'abord termine sa maternité pour faire l'examen pour les autres. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'on devrait plus étudier. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un peu certains paramètres pour étudier tout cela. C'est pour ça que j'ai posé même problème de savoir un éducateur qui engrosserait la fille, un élève qui engrosserait la fille, puisque en fait, on se pose ça comme des viols, quelles sont leurs sanctions? Mais la circulaire ne le dit pas clairement. Son collègue, l'amour scolaire, son collègue de l'école qui tomberait aussi dans le cas des viols, qui engrosserait la fille, quel est son sort? On ne le dit pas. Est-ce que c'est la fille qui sera seulement maintenu avec sa grossesse, mais quel est le sort du garçon qui a donné la grossesse? Il est chassé ou il est aussi maintenu à l'école? Et si on les chasse, et voit que nous tombons dans les inégalités aussi. Donc c'est tout ce que la circulaire aurait pu étudier avant qu'elle soit publiée.
La LISADEL, c'est une structure qui lutte pour les droits des enfants et élèves. Avez-vous pris l'initiative d'écrire à la ministre ou une initiative pour contacter la ministre pour lui expliquer vos inquiétudes?
D'abord, j'ai appris qu'avant que la circulaire soit publiée, il semblerait que le ministère aurait réuni certaines zones, certaines structures avec les autorités, ils auraient été la question. Mais à mon humble avis, la LISADEL n'était pas associée, puisque la LISADEL, c'est une famille, elle est nationale. Ma hiérarchie est en train de faire un plaidoyer pour déposer au niveau des ministères pour que la décision soit retirée momentanément et revue avec toutes ces mesures d'accompagnement.
C'est Jean-Malice Lungala, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'était Jean-Malice Lungala, coordonnateur provincial de la Ligue pour la zone Afrique pour le droit des enfants et élèves au Kasaï Central. Notre invité du jour, il est revenu sur la décision toute récente de la ministre de l'Éducation nationale permettre aux filles enceintes de poursuivre leur scolarité. Une mesure qui, selon lui, pourrait bien faire plus de mal que de bien. Sa structure redoute une banalisation de l'immoralité et une recrudescence des violences sexuelles en milieu scolaire. C'est tout pour ce journal. Mise en onde par Pierre Diassinois, coordination par Alain Rung, supervision par Pauline Mousalia et présentation par Gisèle Cage. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés en temps réel. À bientôt pour une nouvelle édition.